Voici une question bien importante pour tout être humain. Quelle est la signification du mot « repentance » selon Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourrait transformer votre vie aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Les questions suivantes sont bien importantes pour chacun d'entre nous, et leurs réponses le sont encore plus. Est-ce que les prophéties de la Bible s'accomplissent toutes telles que prédites? Que signifie le mot « repentance » selon Dieu? Qui est-ce que Dieu appelle à la repentance? Quelle est la nature exacte du royaume des cieux? Est-ce que le royaume des cieux existe présentement? Est-ce que Christ règne sur la terre aujourd'hui? Qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament? Que Dieu nous aide tous à être bien attentifs aux réponses que le pasteur Régent Joly a trouvées dans la parole de Dieu pour nous. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à être attentifs, à ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que tu es là et tu veux nous instruire. Laisse-nous pas manquer une seule parole de ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous allons terminer notre étude du deuxième chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes rendus au verset 12. À la dernière émission, nous avions vu que dans ce chapitre, nous voyons l'accomplissement de 4 prophéties. Selon les prophéties, Jésus devait naître à Bethléem, et c'est cela qui se produit. Jésus devait être appelé hors de l'Égypte, et aujourd'hui nous verrons que cette prophétie s'est accomplie. Une autre prophétie annonce des pleurs à Rama, une ville au nord de Jérusalem. Une dernière dit que Jésus sera appelé Nazaréen. Toutes ces prophéties furent accomplies, comme nous les verrons dans ce chapitre. Ensuite, les mages vinrent visiter Jésus, et lorsqu'ils le trouvèrent, ils l'adorèrent. Nous avons vu au verset 11 que c'est Jésus, l'enfant, qu'ils ont adoré. Ils n'ont pas adoré les parents de celui-ci, surtout pas Marie. Ils firent des dons à l'enfant. L'or qui annonce la naissance d'un roi, l'encens qui annonce sa vie de sacrifice et d'intercession, et finalement de la myrrhe qui annonce sa mort. Nous avons examiné Ésaïe chapitre 60 verset 6, qui annonce la deuxième venue de Christ. Alors, les mages lui offriront de l'or et de l'encens, mais cette fois pas de myrrhe. À sa deuxième venue, Christ vient pour régner, pas pour mourir à la croix en sacrifice, pour nos péchés. Débutons notre lecture, Matthieu chapitre 2, verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages ont présumé qu'Hérode était sincère lorsqu'il a affirmé qu'il voulait lui aussi adorer l'enfant. Cependant, il l'aurait fait périr si un ange de l'Éternel n'avait pas averti les mages afin qu'ils retournent dans leur pays par un autre chemin. Ils ont probablement été vers le sud jusqu'à Hébron, pour ensuite traverser le Jourdain au sud de la mer Morte, et ils se seraient trouvés hors de la portée du roi Hérode. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » L'ange du Seigneur apparut aussi à Joseph pour lui dire de quitter Bethléem avec l'enfant et sa mère, car Hérode cherchera à le faire périr. Versets 14 et 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Matthieu cite le prophète Osée, chapitre 11, verset 1er. C'est une merveilleuse prophétie, car elle a un fondement historique. Un fils fut appelé hors d'Égypte, c'était la nation, et hors d'Égypte fut appelé un fils qui était une personne, cet enfant, du nom de Jésus. Donc, Joseph s'installa en Égypte avec l'enfant et sa mère, et la famille y demeura jusqu'à ce que Dieu leur fasse signe. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Ce que je veux dire maintenant est en partie une supposition et en partie fondée sur des faits établis. Comme je l'ai déjà dit, les mages ne sont pas arrivés à Bethléem en même temps que les bergers, alors que Jésus était encore dans une étable. Les mages ont visité Jésus beaucoup plus tard. Dans certaines pièces jouées dans les églises à l'occasion de Noël, les mages et les bergers arrivent en même temps pour adorer Jésus. Les deux groupes ne se sont sûrement pas rencontrés, puisqu'ils n'ont pas vu Jésus en même temps. Lorsque les mages ont visité Jésus, la famille habitait une maison. Nous avons vu cela au verset 11. Maintenant, lorsqu'Hérode eut une rencontre privée avec les mages, il s'est informé du moment exact de l'apparition de l'étoile. J'imagine que les mages ont dû répondre « il y a 1 an de cela environ ». Si nous avons raison de penser que les mages provenaient de différentes régions de l'Orient et qu'ils s'étaient rencontrés à un lieu déterminé afin de faire route ensemble vers Jérusalem, cela aurait requis passablement de temps à une époque où l'on voyageait à dos de chameau plutôt que par avion. Donc, Jésus devait avoir 1 an lorsqu'il reçut la visite des mages, peut-être même plus. Hérode fut pris de rage lorsqu'il se rendit compte que les mages ne repasseraient pas pour lui dire où se trouvait l'enfant. Il dut se dire quelque chose comme ceci. « Bien. Puisqu'ils ont dit avoir vu l'étoile il y a 1 an, je vais faire tuer tous les enfants âgés de 2 ans et moins. Ainsi, je serai assuré de la mort de l'enfant. » Hérode était un psychopathe. Versets 17 et 18. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Cette prophétie est un peu inhabituelle. Le prophète Jérémie n'a pas parlé de pleurs à Bethléem. Cependant, je suis certain que beaucoup de larmes furent versées dans cette ville. Jérémie parle de Rama. Bethléem et Rama se trouvaient à la même distance de Jérusalem, mais dans des directions opposées. Rama était au nord, Bethléem au sud, Rama était la terre natale de Jérémie. Lorsqu'Hérode a ordonné le massacre des enfants, l'officier responsable de l'opération a dû demander à Hérode de lui expliquer jusqu'où devait-il aller pour tuer les enfants. Hérode lui a dit de tracer un cercle autour de Jérusalem, dont le rayon s'étendrait jusqu'à Bethléem au sud et à Rama au nord. Pourtant, Rama n'avait rien à voir avec cette histoire. Hérode a fait périr un très grand nombre d'enfants, tous les enfants dans un rayon de 25 kilomètres autour de Jérusalem. Ceci a sûrement brisé le cœur de nombreux parents. La prophétie de Jérémie s'est accomplie exactement telle que prédite. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Notez un détail très intéressant. Ce verset dit « un ange du Seigneur » et non « l'ange de l'Éternel » ou « l'ange de Dieu ». Ces deux dernières expressions sont souvent utilisées dans l'Ancien Testament lorsque Christ s'est manifesté. Maintenant, le texte dit « un ange de l'Éternel ». car Christ est maintenant incarné, et il est en Égypte, donc un ange porte les messages. Verset 20. Il dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Il est absolument nécessaire que Jésus quitte l'Égypte pour revenir habiter dans le pays d'Israël. En effet, Jésus est né sous la loi, il doit vivre conformément à la loi mosaïque. Il est le seul à avoir entièrement accompli la loi, donc il doit sortir du milieu culturel égyptien. Moïse et la postérité d'Israël y furent élevés alors que la nation était en voie de se former. Cependant, les circonstances sont maintenant différentes. Versets 21 et 22. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Archélaüs faisait partie de la dynastie d'Hérode, mais il n'était pas mieux que son père. Il fut aussi très brutal. Verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Le mot hébreu pour Nazareth est Netzer, et ce mot signifie branche ou une pousse, jeune plante. La ville de Nazareth fut appelée ainsi à cause de son peu d'importance. Le mot Netzer, ou des mots de cette famille, se retrouvent dans les prophéties suivantes. Ésaïe, chapitre 11, verset 1er. Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Et dans le psaume 22, verset 6. Cependant, le Seigneur Jésus n'est pas seulement appelé Nazaréen parce qu'il est le rameau sorti du tronc d'Isaïe, mais aussi parce qu'il fut élevé dans la ville de Nazareth. Il fut appelé Nazaréen conformément aux prophéties. Nous avons vu que les quatre prophéties concernant Jésus et ayant un rapport avec un nom de lieu se sont accomplies de façon très naturelle. Jésus est né à Bethléem, il fut appelé hors d'Égypte, il eut des pleurs à Rama et fut appelé Nazaréen. Ce qui semblait être un ensemble de prophéties étranges se transforma en un ensemble de faits avec un enchaînement plausible dans le contexte où ils se produisirent. Nous passons au troisième chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Dans le chapitre, nous faisons la connaissance de Jean-Baptiste, le précurseur du roi. Il annonce la venue du royaume de Dieu, et il baptise Jésus le roi. Nous nous trouvons donc devant un chapitre remarquable. Nous parlerons de nouveau du royaume des cieux. Débutons notre lecture. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Soudainement, Jean-Baptiste entre en scène. Si nous n'avions que l'Évangile selon Matthieu, nous nous demanderions qui est-il et d'où vient-il. L'évangéliste ne nous donne aucun renseignement sur le personnage. La raison pour cela est simple. Le prophète Malachie avait prédit qu'un messager viendrait préparer le chemin du roi qui viendrait. Malachie chapitre 3 verset 1er, je cite, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Jean-Baptiste est le messager annoncé par le prophète Malachie. Il n'est pas nécessaire de connaître l'origine d'un messager. Chers amis, lorsque le facteur vient nous livrer notre courrier, nous n'avons pas besoin de savoir en quelle année ses ancêtres ont émigré au Canada, ni de connaître leur pays ou leur région d'origine. Ce qui nous intéresse, c'est le message. Ce qui est important, c'est le message qu'il nous apporte. Tu peux remercier le facteur, faire un brin de causette, mais ensuite, il poursuit sa route. Jean-Baptiste a expliqué clairement qu'il n'était qu'un messager. Donc, il entre en scène soudainement. Il arrive du désert de Judée et il annonce « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Examinons les expressions. La première, repentez-vous. La seconde, le royaume des cieux. Et cette troisième et dernière est proche. Repentez-vous est une expression que Dieu a toujours adressée à son peuple afin qu'il change de direction, qu'il fasse un virage de 180 degrés. Le terme grec pour repentir est métanoïa, qui signifie changer d'idée. Tu vas dans une direction, tu te vires et tu vas dans la direction opposée. C'est surtout son propre peuple que Dieu appelle à la repentance. Ce sont les croyants qui doivent faire un virage complet lorsqu'ils se refroidissent, afin de revenir à Christ. C'est le message qui fut envoyé aux sept églises en Asie mineure, que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Et ce fut le message de Christ à son peuple. Quelqu'un va sûrement me demander si un incroyant doit se repentir. Un incroyant est appelé à croire et à mettre sa confiance en Jésus-Christ. Ce fut le message de l'apôtre Paul au geôlier de Philippe, que nous retrouvons dans Actes, chapitre 16, verset 31. Cet homme avait besoin de se repentir, mais lorsqu'un homme place sa confiance en Christ, il se repent. La foi, c'est mettre notre confiance entièrement et uniquement en Christ. Lorsque tu te tournes vers Christ, tu te détournes de quelque chose d'autre. Si vous ne vous détournez pas de quoi que ce soit, alors vous ne vous tournez pas vers Christ. La repentance fait partie de la foi, mais nous devons premièrement dire aux âmes perdues qu'elles doivent croire en Jésus-Christ. Nous nous réjouissons lorsqu'une personne s'avance suite à un appel et signe une carte indiquant qu'elle a pris une décision pour Christ. Cependant, le plus important, c'est de faire confiance à Jésus-Christ pour votre salut et faire de lui votre sauveur. Lorsque vous vous êtes tourné vers Christ, vous vous êtes détourné de quelque chose d'autre. Deuxième expression. Le royaume des cieux réfère au règne des cieux sur la terre. Le Seigneur Jésus est le roi. Il est impossible d'avoir un royaume sans un roi, ou un roi sans un royaume. Dans une pièce de théâtre de Shakespeare, Richard III s'écrie « Mon royaume contre un cheval !» S'il avait échangé son royaume contre un cheval, il n'aurait plus été un roi. Il n'aurait été qu'un simple cavalier. Un roi doit avoir un royaume. Que disait exactement Jean-Baptiste lorsqu'il affirmait que le royaume des cieux est proche? Il disait que le royaume des cieux était représenté par la personne de Christ. Est-ce que le royaume des cieux existe présentement? Oui, car ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et le confessent sont transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ils appartiennent à Christ, et la relation qu'ils ont avec lui est plus intime que celle entre un roi et son sujet. Christ est le marié, et les croyants font partie de son épouse, l'Église. Certains peuvent se demander si nous sommes semblables à des sujets dans un royaume, car nous devons obéir aux commandements de Dieu. Je vous dis que la relation est beaucoup plus profonde. Nous devons lui obéir parce que nous l'aimons. C'est une relation d'amour. Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le royaume des cieux, c'est le règne des cieux sur la terre. Ce règne n'est pas établi présentement. Christ ne règne pas sur le monde aujourd'hui. Il y a quelque chose qui boite avec le raisonnement de ceux qui croient que le royaume des cieux est établi présentement. En aucune manière est-ce que Christ règne sur la terre, sauf dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu. Cependant, il reviendra un jour et il établira son royaume sur la terre. Lorsqu'il viendra, il mettra fin à toute rébellion. Croyez-moi, c'est ce qu'il fera. Le royaume des cieux était proche dans la personne de son roi, Jésus-Christ. C'est de la seule façon qu'il fut présent. Maintenant, Matthieu affirme que ce qu'il a écrit est l'accomplissement d'une prophétie. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Cette prophétie se trouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 3. La voix de celui qui crie dans le désert. C'est ce que Jean-Baptiste affirmait être, et rien d'autre. Le but de la voix qui criait dans le désert était de préparer le chemin du Seigneur. Verset 4. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean-Baptiste est un individu original. Il suit un régime alimentaire inhabituel et il s'habille drôlement. Je n'aime pas dire cela, mais aujourd'hui Jean-Baptiste s'habillerait comme un vagabond. Il avait un manteau de poils de chameau, il portait une ceinture de cuir et son menu consistait de sauterelles et de miel. Certains affirment qu'il ne se rasait jamais et qu'il avait des cheveux longs. Nous avons un homme exceptionnel, un homme à qui Dieu a confié une mission. C'est un personnage de l'Ancien Testament qui apparaît dans le Nouveau Testament. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Les foules se ruaient pour voir Jean-Baptiste. Jean n'a pas loué de stade, de salle ou de bâtiment d'église. Aucun comité ne l'a invité. En fait, il n'est pas allé à Jérusalem ni dans une autre ville. Si vous vouliez rencontrer ou voir Jean-Baptiste, vous deviez vous rendre à lui. C'est évident que l'Esprit-Saint était avec lui. Verset 6. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Leur comportement indiquait que ces gens avaient changé. Le fait qu'ils suivaient les instructions de Jean-Baptiste indiquait qu'ils abandonnaient leur ancienne vie pour une vie nouvelle. Versets 7 et 8. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Voyez qui vient vers Jean-Baptiste. Voyez comment il accueille ses visiteurs distingués. Imaginez que votre pasteur se lève dimanche matin et qu'il dise « race de vipères ». Je pense que les anciens de l'Église se mettraient à la recherche d'un autre pasteur. Ce sont des paroles dures. Il s'adresse aux pharisiens et aux sadducéens qui se prennent pour des gens bien et qui, d'un point de vue humain, pouvaient l'être. Et il leur dit « la nouvelle vie doit se manifester ». Vous ne pouvez pas simplement pratiquer le rituel du baptême, vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mes amis, Jean-Baptiste dit les choses telles qu'elles sont aux pharisiens et aux sadducéens. Nous ne sommes pas surpris que Jean-Baptiste n'ait pas gagné le trophée de l'homme le plus populaire cette année-là. Mes chers amis, pour la prochaine émission, lisons Matthieu chapitre 3 verset 10 jusqu'à chapitre 4 verset 11.
Merci Régent. On a appris aujourd'hui que lorsqu'un homme place sa confiance en Christ, il se repent. On a vu que la foi, c'est de mettre notre confiance entièrement et uniquement en Christ. Maintenant, on comprend qu'en se tournant vers Christ, on se détourne de quelque chose d'autre. On sait que la repentance fait partie de la foi, mais qu'il faut premièrement croire en Jésus-Christ. Il faut qu'on fasse confiance à Jésus-Christ pour notre salut et faire de lui notre sauveur. Quand je me suis tourné vers Christ, je me suis détourné de ma vie de péché. Et toi, est-ce que tu as fait ce pas de foi? As-tu mis ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Si tu devais mourir cette nuit, par exemple, es-tu certain, es-tu certaine que tu irais au ciel, que que Dieu t'accueillerait pour l'éternité. La seule façon que tu peux être vraiment certain ou certaine, c'est de reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Jésus, qui est Dieu lui-même, a quitté son beau royaume et la présence de son Père. Il est venu sur cette terre. Il a pris un corps comme le nôtre. Il s'est laissé prendre par sa propre créature. Il s'est laissé flageller, cracher au visage, couronné d'épines. Lui qui était digne d'une couronne de gloire, le roi des rois, il s'est abaissé pour nous. Il s'est laissé crucifier sur une croix, comme s'il était lui-même un grand pécheur. Et pourtant, il est le seul qui soit venu sur la terre sans jamais pécher. Il a fait tout ça pour moi. Il a fait ça pour toi. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur perdu? Pense à Dieu pendant quelques secondes. Dieu est saint. Alors, on n'est pas digne d'entrer en sa présence. Mais par le sang de Jésus, on peut. Si tu crois en Jésus-Christ, attends pas à demain. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est un cadeau qu'il veut faire, qu'il veut te faire. Dieu le Père a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé, toi, Louis, Paul, Marc, Louise, Gertrude. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. Si tu regardes dans Jean, au chapitre 3, verset 16, c'est ça, il dit que quiconque croit en lui, ce quiconque, ça peut être toi. Si tu crois en Jésus-Christ, demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est certain qu'il va le faire. Si tu mets toute ta confiance en lui, si tu reconnais que tu es incapable de te sauver toi-même, que tu es même digne de l'enfer. L'enfer existe. Il ne faut pas ménager les mots là-dessus. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles là. Il veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. On est tous des pécheurs. Mais il faut tourner nos regards vers Jésus et lui demander de nous sauver, et il le fait. Et tu peux être certain à partir d'aujourd'hui que non seulement tu vas peut-être avoir la vie éternelle, non, que tu as la vie éternelle à partir d'aujourd'hui, si tu lui demandes de te donner ce cadeau précieux. Jésus veut te sauver. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Viens à Jésus.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.